Marianne Lemay de Collegs et aujourd'hui, je suis avec Charlène et Geneviève au Hiring Stories Podcast.
Bonjour Marianne, j'aimerais ça que tu nous dises un peu plus qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais avec Collegs.
Ben salut, moi c'est Marianne Lemay, je suis fondatrice et présidente de Collegs, qui est une entreprise qui aide les employeurs à attirer et fidéliser leurs employés.
OK, puis avant ça, tu as développé tes compétences et ta carrière en ressources humaines. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus juste sur le avant Collegs, qu'on comprenne comment tu es arrivée à Collegs?
Oui, ben en fait, moi j'ai fait un baccalauréat en communication marketing au départ, puis quand j'ai gradué, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Si je voulais pas faire que du marketing parce que le volet humain manquait un peu puisqu'on était plus dans la promotion des produits. Moi, j'avais envie de me rapprocher de ce côté humain-là. Donc, je me suis redirigée vers le recrutement en TI. Par la suite, je suis devenue responsable RH et éventuellement directrice RH chez G-Soft, une entreprise qui avait 50 employés en 2013. Et quand je suis partie, 4 ans plus tard, on était rendu 250.
Ok,
ça a été tout un beau défi que j'ai adoré. Puis après ça, j'ai été chez Kangaroo, qui font des logiciels de gestion de ressources humaines.
Ouais.
Vraiment, mon mandat, c'était de bâtir le département RH et le département marketing là-bas. Donc, j'ai renoué un peu avec ce volet start-up-là parce que Kangaroo, quand j'ai commencé, on était une dizaine d'employés. J'ai vraiment touché à plusieurs phases du cycle de vie d'une entreprise. Quand j'étais chez G-Soft 250, chez Kangaroo, 10 personnes. Fait qu'on dirait que je me suis dit, ben ça y est, je peux me lancer parce que maintenant, je sais un peu c'est quoi les étapes des stades de la croissance.
Ouais.
Et le côté start-up m'effraie beaucoup moins en l'ayant vécu. Donc, j'ai eu envie aussi d'aider plus qu'un seul employeur. Tu sais, parce que quand j'étais chez Kangaroo, je faisais beaucoup d'articles de blog, des vidéos, puis je voyais que ça pouvait aider les gens, puis j'avais envie de ne pas être infidèle à mes employeurs, c'est-à-dire de changer de job à toutes les années ou aux 2 ans, puis vraiment de pouvoir aider le plus de gens possible quand même.
D'où Collegs et la possibilité d'avoir plusieurs mandats en même temps et
exactement.
D'aider plusieurs clients en même temps. Ouais.
Exactement.
Puis effectivement, j'imagine que le fait de l'avoir vécu, en tout cas moi c'est ce que j'ai apprécié parce que je te connais depuis un moment, c'est ce que j'ai apprécié de toi, c'est le fait que tu aies eu les mains dedans, comme on dit, donc que tu l'aies vécu, que tu aies fait face aux mêmes difficultés auxquelles tes clients font face et avec lesquelles tu peux les aider. Parce qu'il y a une grosse différence, je trouve... Comme tu le dis, on a beau avoir des études en RH ou en gestion du changement, tant que je pense qu'on n'a pas vécu avec la matière première, c'est-à-dire l'humain, dans son quotidien, dans ses émotions, dans ses contradictions, je pense qu'il manque un peu une corde à son arc. Là. Puis c'est ça que j'aimais avec Collegs, en tout cas. Ça c'est mon...
Mais merci, mais en fait, c'est vraiment ça. T'sais, quand je rencontre mes clients, souvent, ils me racontent un peu leurs défis, leurs problématiques. Puis souvent, je leur dis « Hey, je te comprends.
Ouais.
Tu sais, j'ai vécu ça, puis je leur dis, j'imagine qu'en ce moment, tu te sens comme ça parce qu'il y a la situation ABC qui arrive, puis elle dit, oh oui, tellement, puis là, on arrive à se comprendre, on parle le même langage. Puis, pour innover, il faut avoir conscience de ce qui se passe en ce moment.
Puis, ce dont on voulait parler aujourd'hui, justement, c'était, mettons que je suis une PME, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, je croise de nombreux clients, de nombreuses publications sur les médias sociaux, sur LinkedIn, Facebook, peu importe, de clients qui se posent la question, je veux m'intéresser à ma marque employeur, je suis prêt. Souvent, ça a été un travail de se dire qu'il fallait le faire, ils sont prêts. Mais qu'est-ce que je peux faire en tant que PME pour commencer le travail? Par quoi je commence? Parce que c'est vaste, la marque employeur. Est-ce que tu pourrais déjà me donner peut-être une astuce ou deux de dire par quoi c'est le plus naturel, on va dire ça comme ça, de commencer?
C'est sûr qu'il faut comprendre qui vous êtes, c'est-à-dire votre mission, votre vision, vos valeurs. Et tout le monde a des valeurs d'entreprise. C'est juste que parfois, on n'a pas trouvé encore les bons mots. On n'a pas mis le doigt dessus. Parfois, on a trouvé les bons mots, mais ça a évolué dans le temps. Puis, c'est un peu ça que j'essaie de faire avec les clients que j'ai, c'est de dire, OK, les valeurs que tu as là, est-ce que c'est des valeurs qui ont été choisies par la direction, par les employés? Est-ce qu'ils sont vécus dans toutes les décisions que vous prenez? Puis, ça, c'est vraiment le point de départ pour déterminer ta marque employeur, c'est vous êtes qui?
Ouais.
Parce que quand on veut faire rayonner l'entreprise, il faut savoir on est qui pour savoir quoi faire rayonner, en fait.
Puis aussi à qui, non? Parce qu'on on parle de qui je suis, mais je ne veux pas atteindre tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est pertinent pour moi. Fait qu'à ce niveau-là, j'imagine qu'il y a une autre étape. En tout cas, pour l'avoir vécu aussi, il y a une étape d'introspection, mais comment dire, de
persona.
Extraspection. Ça n'existe absolument pas, là, mais oui, de persona. Est-ce que tu peux me parler un peu plus des personas? Parce que c'est une valeur qui est peut-être plus connue par les gens qui font du marketing, mais un peu moins par des gens qui font du RH.
En fait, un persona, c'est une représentation graphique d'un public cible. Ça, en marketing, c'est la définition un peu de base. Puis, quand on va dans les personas candidats et même les personas employés, c'est de définir qui sont tes employés cibles, donc qui sont tes candidats cibles, pour savoir comment mieux leur parler, quel ton on va utiliser, sur quels médias sociaux on va les approcher. Tu sais, si ta moyenne d'âge, c'est 55 ans, est-ce que tu vas faire des campagnes sur Instagram? Peut-être pas, tu sais.
Ouais, non.
Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, mais aussi au quotidien, dans les communications, est-ce que tu vas vouvoyer tes employés? Est-ce que tu vas les tutoyer? Ça va vraiment dépendre de ton organisation, de tes gens, des gens que tu veux essayer d'attirer.
Parce que c'est sûr que effectivement, quelqu'un, comme on disait, même en TI ou VS, quelqu'un dans, je sais pas, le domaine de la construction, va pas avoir non plus la même attente envers les recruteurs ou les RH. Est-ce que il y a un parallèle à faire entre ça et un processus de recrutement? Est-ce que ça aussi, un processus de recrutement, selon toi, devrait être adapté, changé, différent en fonction du ou des postes ou de même des informations qu'on partage pendant le processus avec les candidats?
Bien, le processus de recrutement doit toujours être adapté. En fait, tout ce que j'offre aux employeurs, c'est personnalisé dans le sens où l'entreprise a son contexte. Il y a une réalité, par exemple, en informatique, que les développeurs se font offrir des postes en 2 jours. Bien là, tu n'as pas le choix de te dépêcher plus puis que dans un autre secteur, que le délai moyen est 1 mois. T'sais?
Ouais.
Fait que c'est sûr qu'il y a une réalité temporelle comme ça. En même temps, plus je fais de mandats dans des secteurs variés, plus je trouve que tout le monde se ressemble.
Ouais.
Tu sais, dans le sens qu'il y a des besoins communs aux gens. Tu sais, des humains, c'est des humains, au fond. Tu sais, puis on a tous le besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, de reconnaissance. On veut de la transparence, de la communication.
Oui, de la rétroaction.
Juste,
ouais.
Exact. C'est juste que c'est à différents degrés. Pour en revenir au processus de recrutement, il y a plusieurs étapes là-dedans. T'sais, fait quand on fait la prise de besoin avec le gestionnaire, c'est une étape qui est parfois sous-estimée par certaines entreprises. Mais si on est capable de bien cerner le besoin, on va pouvoir mieux combler les postes. Après ça, il y a une question de délai, comme on parlait tout à l'heure. Les étapes. Est-ce que j'ai 5 étapes dans mon processus de recrutement? Le candidat doit revenir 5 fois. Si t'es Google, ça marche.
Ouais.
T'sais, parce que les gens, ils vont dire... OK, j'ai vraiment hâte, c'est correct, je vais faire chaque étape, puis là, ça fait un écrémage et tout ça.
Oui.
Mais tu sais, si t'es le dépanneur du coin, puis tu fais 5 entrevues, bonne chance.
Oui, oui, c'est sûr.
Fait que ça dépend tout le temps du contexte, puis à quoi sert chacune des étapes. Il faut vraiment que ça apporte quelque chose de plus, que ça fasse un filtre, puis aussi, dans ces étapes-là, est-ce que t'as un pourcentage de gens qui réussissent pour aller à la prochaine étape, qui est raisonnable. T'sais, supposons que tu fais des entrevues téléphoniques, tu en laisses passer 30 % puis ton autre recruteur qui fait les entrevues en personne, il laisse passer 90 % des gens.
Ouais.
Fait, est-ce qu'il y a un problème? T'sais, là, fait qu'on peut analyser le processus, puis ça, c'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. Vous pouvez le faire vous-même, ou si vous avez besoin d'aide, faire appel à un consultant.
Ouais.
L'idée de répondre aussi aux candidats quand ils appliquent, même quand ils sont pas choisis. Parce que, tu sais... Il y en a beaucoup moins qui sont choisis que des candidats qui sont rejetés.
Ouais.
Ces candidats rejetés-là, c'est eux qui font votre marque aussi. Il ne faut pas les oublier.
Est-ce que tu as des astuces pour ça? Est-ce que c'est toujours je sais que c'est très délicat. Ça revient souvent dans les communications qu'on a avec nos clients de dire comment je l'adresse et comment je fais quand j'en ai 60, 70, 80. J'imagine qu'il y a un juste milieu entre la personnalisation et du mass mailing, entre guillemets, parce qu'on est humain aussi, là, vu que la RH, elle n'a pas 40 bras. Est-ce que tu as, peut-être une astuce en entre-deux à partager?
Oui, en fait, moi, je l'ai vécu parce que j'étais dans des contextes où on recevait, au début, chez GSoft, on recevait 2 CV par mois.
Ouais.
Quand je suis partie, on était plus à 700 CV par
mois.
Ouais. Fait que c'est sûr qu'à 700 personnes, un message personnalisé à 100 % ben, tu fais que ça. T'sais, fait que ça peut être une décision d'entreprise d'embaucher quelqu'un qui fait que ça.
Ouais.
Ou il peut avoir un minimum d'automatisation. C'est-à-dire que tu sais que quand la personne, elle est rejetée, tu peux envoyer, tu sais, mettons, à l'étape du CV, tu peux envoyer juste un courriel qui dit « Salut, on a bien reçu ton CV. Malheureusement, pour cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas, mais on reste en contact. »
Ouais, ouais, ouais.
Donc, la personne, au moins, elle sait qu'elle n'a pas choisi, puis elle passe à un prochain appel. Fait que ça, je trouve ça très respectueux. Puis, tu as une automatisation. Puis, je pense qu'à l'étape du CV, le candidat est déjà content juste de recevoir un message.
Ah, c'est sûr.
Qu'il soit personnalisé.
Il y en a tellement peu qui le font que... Ouais, non, je suis d'accord.
C'est ça. Puis, après ça... quand on arrive aux gens qu'on a rencontrés. Moi, j'ai tendance à envoyer des courriels personnalisés aux gens que j'ai appelés dans les rencontres téléphoniques. Mm. Puis pour les gens que j'ai rencontrés en personne, je les appelle.
Ouais, bien sûr.
Pour leur dire, tu sais, t'as pas été sélectionné. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup dire pourquoi ouais. j'ai pas choisi la bonne réponse. Évidemment, des fois, il y a des situations délicates, on va se le dire.
C'est sûr.
Qu'on prend pas un candidat pour des raisons qu'on n'a pas nécessairement envie de tout dire, tu sais, puis on veut pas non plus décourager la personne s'il y a 10 éléments qui nous ont déplu.
Ouais.
Mais je pense que de dire des remarques qui sont constructives pour aider le candidat à se développer aussi
ouais.
s'il y a une ouverture.
Ouais.
Tu sais, tu peux lui demander au candidat, donc écoute, malheureusement, ça fonctionnera pas. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions, puis je vais être là pour y répondre.
Ouais.
Puis ça peut vraiment donner un boost à la marque de dire, OK, on n'est pas juste là pour nos employés, on est là pour nos candidats aussi.
Oui, puis de toute façon, en théorie, si ton processus est bien monté, tu n'as pas rencontré 10 personnes. Tu es censé en avoir rencontré une quantité raisonnable. Donc, tu ne vas pas avoir 15 appels à faire. Tu en auras un certain nombre, mais un nombre raisonnable. Fait que ça va te perdre.
Ben, c'est que ça dépend de combien de postes en parallèle à recruter.
Oui, évidemment. Évidemment. Pour le même poste,
oui,
mettons.
Pour le même poste, oui,
oui,
c'est ça,
tout à fait. Oui, ouais, non, évidemment. Là, si tu as 15 postes, ça va être du travail, mais en théorie, c'est du travail de toute façon sur la longueur parce que c'est ça qu'on disait. Tu sais, un candidat qui est rejeté, ça peut être un candidat qui va être accepté dans 6 mois ou dans 1 an. Fait que c'est exact. Un ambassadeur de ta marque. Donc, c'est du travail. Ça a l'air fastidieux. Dieu sur le moment d'avoir autant d'appels à faire, mais au final, c'est du travail sur la durée que tu fais.
Bien, tout ce que ça prend, c'est un bon niveau d'organisation. Mm. Une fois qu'on est organisé, sky is the limit.
Oui, oui. Non, tout à fait. Mm. Donc là, on parle quand même, tu sais, on a parlé un peu des personas, donc de l'externe, de comment est-ce qu'on peut faire des campagnes pour attirer ces gens-là, mais qu'est-ce qu'il y en a de l'interne? Qu'est-ce qu'il y en a du bureau, là, des gens qui sont au quotidien dans notre entreprise?
C'est sûr que c'est la première chose qui doit être valorisé, on doit écouter les gens, on doit les inclure dans nos décisions, c'est sûr et certain. Puis, on a tendance, quand on dit on va faire une marque employeur, c'est facile de dire, bon, on va changer notre logo.
Ouais.
Puis, on va faire des campagnes de pub, on va faire du Google AdWords, on va...
Ouais.
Mais c'est plus que ça, parce qu'en arrière, il y a des gens, puis c'est eux qui font vivre la marque. Fait que, tu sais, ça se fait toujours en deux phases qui cohabitent. Donc, on commence par l'interne, de voir c'est quoi les bobos à l'interne, c'est quoi les problèmes de communication, c'est quoi les activités que vous faites pour vos employés, qu'est-ce que les employés aiment chez vous, qu'est-ce qu'ils vous reprochent, qu'est-ce qu'ils ont suggéré, qu'est-ce que vous avez mis en place, puis qu'est-ce que vous avez rejeté et pourquoi. Fait que quand on s'attarde vraiment à qu'est-ce qu'eux pensent, qu'est-ce que... eux veulent, puis qu'est-ce qui est possible de faire aussi. Je pense que c'est la première étape avant de se rendre à faire des campagnes de publicité, mais c'est tout aussi important.
Non, tout à fait.
C'est juste qu'il ne faut pas perdre de vue les employés là-dedans.
Ça n'a pas besoin d'être si compliqué que ça, j'imagine. Pour l'avoir déjà fait en PME, nous, on passait par des phases d'audit slash de sondage relatif avec de l'aide externe parce que souvent, il faut que les questions soient posées de la bonne manière parce que si tu poses des questions trop directes ou qui amènent à l'interprétation, mettons, tu peux te retrouver avec des faux résultats. Mm-hmm. Selon toi, de ce que tu constates dans les PME, une phase d'analyse comme ça, d'audit ou de sondage interne, d'expérience employée, tu définirais ça en combien de temps? Pour une moyenne, c'est raisonnable de se dire, OK, ben, pour qu'une PME se disent, ben regarde, je vais planifier tant de temps pour ma phase d'analyse.
C'est tellement varié parce ouais. que PME, ça peut être une personne comme ça peut être 500.
C'est vrai, c'est vrai.
La définition est assez large. Tu sais, j'ai un client avec qui ça a pris 2 semaines, j'en ouais. ai d'autres avec qui ça a pris 4 mois.
Ouais, OK.
C'est tellement variable, ça dépend du besoin, qu'est-ce qu'on veut demander. Moi, il y a certains sondages, mettons les sondages pour les personas que j'ai construits moi-même,
d'accord.
mais des sondages aux employés pour vraiment comprendre leurs besoins et tout ça, je fais appel à des firmes externes qui font ouais. des sondages. Puis après, il y a quelque chose qui est important quand on fait des sondages, c'est d'analyser les résultats, oui,
ouais.
mais de faire quelque chose avec ces résultats-là. Donc moi, ce que je fais, que je prends les résultats du sondage puis je fais un plan de recommandation.
Ouais, OK, ouais.
Puis un plan d'action puis de dire OK, c'est bien beau là d'avoir toutes ces données là, mais qu'est-ce qu'on fait avec?
Ça pourrait être la pire affaire du monde de faire un sondage, donc de démontrer aux employés qu'on s'intéresse à eux, puis au final, de rien faire avec,
c'est
parce que ça crée des attentes. Ouais.
Oui, on crée des attentes, on fait des faux espoirs, puis quand on remplit le sondage, c'est important de dire aux employés pourquoi on fait le sondage.
Ouais.
Il ne faut pas non plus faire des fausses promesses puis de poser des questions de « aimerais-tu avoir tel avantage social? » Puis finalement, « ah oh ben non, mais on ne le mettra pas en place.
Ouais, » j'avoue.
Ouais. C'est chiant.
Oui, c'est clair. Oui, non, effectivement. Okay. Ouais. Donc, c'est plus aussi ouais, dans la pondération des questions, dans la manière dont on l'amène. Et ben, c'est un vrai travail de réflexion à faire avant, en fait, en groupe. peut-être avec la direction, peut-être s'assurer aussi que le président ou les présidents ou les associés, peu importe, sont alignés à un certain point. J'ai vécu l'expérience similaire avec un client qui voulait faire ce travail, qui a fait le travail de sondage et d'audit, mais au final, le président était plus ou moins au courant. Fait que là, ça a créé, c'était une bombe atomique, là, clairement. Là.
Il faut s'aligner avec la direction. La direction doit être alignée autant que la culture d'entreprise vient des employés, mais elle est quand même drivée d'une certaine façon par la direction et il faut que tout le monde soit sur la même page pour aller de l'avant. T'sais, j'en ai vu des places où finalement, on a plein de bonnes idées au RH, mais à la direction, ça bloque, puis il n'y en est pas question, ça ne se passera pas comme ça. Fait que moi, c'est pour ça aussi que quand je vais faire des mandats avec des clients, je fais des initiatives pour que les gens m'appellent pour que j'aille les aider. Mais moi, je ne fais pas de prospection comme telle parce qu'il y a une phase où le client, s'il est déjà prêt, il va m'appeler. T'sais, il a fait un pas de se dire « Hey, on a besoin de ça pour l'entreprise. Ouais. On a besoin d'aide pour attirer et fidéliser les employés. » Là, il va m'appeler.
Pour faire du pied sur ce que tu disais, pour que la direction soit capable de voir un effet positif, ça fait partie de l'argumentaire ou en tout cas de se dire « Ok, j'ai investi là-dedans et je vois un résultat. » Pour être capable d'amener ça à la direction et envers tout le monde, c'est d'être capable de, dès le départ, mesurer. Je sais que tu en parles souvent et que c'est un point que nous aussi, on martèle beaucoup en recrutement. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça? Mesurer, identifier, KPI, data, comment ça se passe? Parce que c'est de l'humain, là. Ça peut être un peu compliqué.
C'est tellement une machine complexe qu'il y a des compagnies qui se spécialisent là-dedans, comme Saint-Elle, Capital Humain, avec André Laforge, qui est bien connu. Donc, je prétends pas du tout être au niveau de André. Par contre, j'aime conscientiser les gens à calculer, à mettre des métriques. Il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Puis même pour le recrutement, par exemple, dans les ATS, la plupart maintenant, on peut calculer des métriques pour ça. Dans les SIRH aussi, les logiciels de gestion de ressources humaines, ça se fait aussi. Moi, qu'est-ce que j'aime montrer aux clients, c'est... Tu sais, la direction, souvent, elle aime ça, les fichiers Excel. Voir les résultats. Donc, souvent, je fais un fichier Excel avec toutes les étapes qu'il va y avoir dans le processus, les prix, et je fais une catégorie résultats. Okay. Après, je dis, c'est quoi les résultats qui vont découler de ça? Puis des fois, évidemment, ça se modifie, ça évolue et tout ça. Ouais. Mais au moins, il sait à quoi s'attendre. Il sait dans quoi il investit son argent. Puis quand on veut calculer des données un peu qualitatives, si je peux dire, tu sais, des humains, on peut pas tout rapporter aux chiffres.
Non,
c'est sûr
qu'on
peut sortir des tendances, on peut faire des sondages, on peut avoir des pourcentages, mais tu sais, c'est sûr que l'humain reste l'humain, il faut quand même mener des entrevues pour comprendre les employés, puis les impliquer, tout ça.
Bien sûr,
Mais je pense que les chiffres sont un bon indicateur d'une tendance qui se passe dans l'entreprise.
Ouais.
Il faut pas s'y fier à 100%. Mais tu sais, ça donne quand même des bons arguments, surtout pour les gens de RH. Tu sais, il y en a quelques-uns qui sont moins à l'aise de vendre des idées à la direction.
Tout à fait.
Par exemple, un employé qui est en vente a plus de facilité à vendre ses projets que quelqu'un qui est plus dans, tu sais, en ressources humaines, on est plus dans la relation d'aide.
Tout à fait.
Donc, j'ai l'impression que d'avoir ces chiffres-là, ça donne un outil supplémentaire au RH pour faire valoir leurs idées, valoir leurs projets, puis de dire, ah, ben c'est pas juste une intuition. Regarde, j'ai les chiffres qui prouvent que les employés sont mécontents. C'est pas juste au feeling, tu sais.
Ouais, tout à fait, parce que t'as super bien résumé ça, là, souvent, là, l'équipe de direction a besoin de plus de concret. Ils comprennent, ils font confiance quand même à leurs gens RH, là, mais ça les rassure. Les chiffres rassurent, en fait, tout simplement parce que oui, on leur explique que, OK, j'ai une dépense à faire, mais l'investissement, c'est vrai que souvent, ils ont le réflexe chiffré pour amener un autre point, tu sais, de se dire, OK, il y a les chiffres, il y a le qualitatif, le quantitatif, mais il y a aussi les initiatives à l'interne. Peut-être que juste de regarder ça, comment est-ce qu'on gère nos initiatives internes des employés, VS, combien il y en a et comment elles sont gérées à la fin. Une des choses aussi qui est capable peut-être d'illustrer à la direction, ou peu importe la direction ou n'importe qui, là, le succès de ces projets-là, c'est peut-être de dire les initiatives internes, comment c'était avant, comment c'est maintenant, est-ce qu'il y en a plus, est-ce que c'est plus, ça vient plus des employés, est-ce que c'est mieux géré. Ça aussi, j'imagine que ça peut être un bel indicateur, selon toi?
Oui, ça peut l'être. Je pense pas que pour avoir une culture parfaite, ça prend un nombre prédéterminé d'activités.
Non, ouais.
Par contre, je pense qu'une bonne planification peut être intéressante. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des activités qui sont planifiées, disons, on dit des activités trimestrielles. Fait que, mettons, t'en fais une fois par 3 mois, que ça, t'es certaine qu'ils vont se passer. Puis, les employés, quand t'arrives à une culture collaborative, ils vont en proposer d'eux-mêmes des activités. Mais pour ça, il faut qu'ils se sentent écoutés, épaulés, qu'il y ait du feedback, il faut qu'ils se sentent bien, qu'ils aient le goût de revoir ces collègues-là dans un autre contexte.
Oui, c'est clair. Non,
donc, il y a quand même un travail à faire pour que les gens soient rendus à faire ça. Mais c'est sûr que si on veut mesurer un peu les activités, bien, ça peut être de mesurer le taux de participation aux activités. Est-ce qu'avant, il y avait 50 % des gens qui participaient, maintenant, vous êtes rendu à 75?
Ah oui, c'est bon,
si
ça.
Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé ça? Est-ce que c'est parce que on a embauché des nouveaux employés, ils sont plus motivés? Est-ce que c'est les anciens qui viennent tout le temps, les nouveaux sont intimidés? C'est qui vient à ces activités-là?
Oui, puis encore une fois, si tu définis tes personas, tu vas peut-être réaliser que les activités que tu proposais à tes employés ne sont pas adaptées à ton persona interne. Donc, tu sais, je dis n'importe quoi, je ne vais pas utiliser cet exemple-là, on va en utiliser. Juste de dire, mettons, je ne sais pas, tu fais beaucoup de 5 à 7, par exemple, et puis tu as beaucoup de familles à l'interne. Ben, les familles, à chaque fois, elles ne peuvent pas venir parce qu'il faut aller chercher l'enfant à la garderie, etc. Fait qu'au final, elles ne peuvent pas bénéficier du team building que ça peut créer. Ben là, il y a une introspection à faire, à se dire, OK, ben, c'est des actions faciles, entre guillemets, à identifier et à mettre en place, comme tu disais, qui ne sont pas coûteuses et qui ont un impact direct. Fait que nous, on l'a vécu chez Humanifest. Le taux de participation a grimpé en flèche, puis les employés se sentent moins gênés.
De faire des activités sur les heures de travail?
Ben, sur et après. Okay. C'est-à-dire qu'une activité extra, justement, en plus du travail, je ne sais pas, une soirée cinéma ou des choses comme ça, on les a organisées différemment pour qu'il y ait une partie de cette soirée-là qui soit accessible aux gens avec des familles, VS l'autre partie à des gens qui ont moins d'obligations familiales. Et ça a simplifié les choses énormément. Tout le monde est beaucoup plus heureux comme ça. Là.
Mais définitivement.
Fallait juste le déclencheur de se dire, OK, attends, notre taux de participation, c'est pas normal. Les gens s'aiment, en tout cas. Je pense que les gens s'aiment. Fait que juste effectivement d'avoir cette introspection sur les personas internes, ça nous a beaucoup aidé.
Oui, c'est sûr. Moi, chez Kangaroo, on faisait des activités trimestrielles, comme je mentionnais tout à l'heure. C'était toujours sur les heures du travail.
Ouais.
Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un moment pour parler de l'avenir de l'entreprise, qu'est-ce qui se passait, c'était quoi les nouveaux projets, les nouveaux clients, etc. Après ça, on faisait une activité que c'était toujours les employés qui décidaient qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Puis c'était tellement le fun. On a fait de la glissade sur tube, on a fait du laser tag, on a fait vraiment plein d'activités. Mais ça dépend toujours du contexte de votre entreprise. Si vous êtes dans une usine puis que vous voulez faire une activité avec tout le monde en même temps, c'est peut-être un peu plus délicat s'il y a des quotas de production à atteindre et tout. Il faut vraiment s'adapter selon votre réalité aussi.
Merci beaucoup, Marianne. Puis si je veux en savoir un peu plus sur toi, puis sur ce genre d'initiative, peut-être des conseils ou quoi que ce soit, est-ce que je suis mieux d'aller sur ton site web, de t'écrire un email?
N'importe où.
N'importe où?
En fait, vous pouvez me rejoindre sur le site collegs.com, collegz.com. Et il y a une section qui s'appelle Textoblog aussi, où vous pouvez vous abonner. Et ça, c'est une newsletter que j'envoie, non pas par courriel, mais par texto, une fois par mois, avec des articles, des vidéos sur l'innovation en ressources humaines, des sujets qui touchent à la marque employeur, à la culture d'entreprise. Ou sinon, vous pouvez m'écrire sur le bon vieux LinkedIn. Ça va me faire plaisir. Marianne Lemay, vous pouvez m'ajouter.
Je vais mettre les coordonnées de toute façon. Merci beaucoup, Marianne, d'être venue, en tout cas.
Merci à toi pour l'invitation.
Hiring Stories est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Play.